Il est 8h23.
France Inter, Léa Salamé, Nicolas Demorand, le 7-10.
Et avec Léa Salamé, nous recevons ce matin la députée RN du Pas-de-Calais, présidente du groupe RN à l'Assemblée nationale. Question-réaction au 01 45 24 7000 et sur l'application de France Inter. Marine Le Pen, bonjour.
Bonjour.
Et bienvenue à ce micro. Beaucoup de sujets à aborder avec vous ce matin. L'international avec la guerre en Ukraine et aussi à Gaza. L'économie avec les annonces de Bruno Le Maire. Les sujets de société comme la fin de vie. Mais d'abord un mot de cette visite surprise d'Emmanuel Macron hier à Marseille, consacrée à la lutte anti-drogue. Emmanuel Macron qui a annoncé une opération Place Nette XXL sans précédent pour porter un coup d'arrêt au trafic de drogue. Plus de 4000 policiers et gendarmes sont mobilisés à Marseille, dans les communes alentours également. Leur déploiement a commencé et va se poursuivre dans les semaines qui viennent. Est-ce une opération nécessaire? Saluez-vous cette opération ce matin, Marine Le Pen?
Je pense que XXL, c'est peut-être un poil exagéré en réalité. C'est S, quoi. C'est opération S, small. Parce que la réalité, c'est que mobiliser 3000 à 4000 policiers et gendarmes pour récupérer en l'espace de 2 jours 4 armes, 98 munitions et 8 kilos de cannabis, on va pas aller loin. On est évidemment là face à un énième coup de com' pour faire oublier des chiffres qui sont absolument dramatiques. Voilà. Et notamment à Marseille, quand le trafic de stupéfiants a augmenté de 103% en un an, les coups et blessures de 50%, les prises de stupéfiants de 485%. Voilà. La réalité, c'est que, en réalité, Marseille est sous la coupe des narcotrafiquants aujourd'hui, et que les bandes sont devenues des gangs, et que les gangs sont en train de devenir des maras, c'est-à-dire des armées agissent dans le domaine du trafic de stupéfiants, y compris par l'intermédiaire de l'intimidation des élus, voire de la corruption, d'assassinats ciblés. C'est une véritable catastrophe, et ce trafic en France génère, je le rappelle quand même, 3 milliards d'euros de bénéfices.
Vous le savez, c'est la priorité de Gérald Darmanin. Il l'a annoncé, il l'a affiché. Il y a eu plusieurs coups de filet au sein des deux principaux gangs marseillais. Il l'a dit, des Z Mafia et Yoda, pour ne pas les citer. Gérald Darmanin affirme aussi qu'il y a eu 1000 points de deal supprimés ces derniers mois sur les 4000 recensés à son arrivée sur toute la France. C'est pas gagné, on ne démantèle pas le trafic de drogue en 2 jours. Mais est-ce que vous voyez quand même des avancées? Est-ce que vous avez quand même l'impression que c'est un sujet qui n'est pas sous-estimé par le gouvernement, qui est mis en haut des hiérarchies,
alors,
en haut de la pile?
Alors, ils ne savent absolument pas comment s'y prendre, parce que supprimer 1000 points de deal, il est supprimé le lundi. En réalité, le mardi, il s'est reconstitué à 200 mètres. Il faut arrêter de raconter des coups aux gens, parce qu'ils vous le disent, je veux dire, les habitants de Marseille, ils vous disent, le deal qui a été devant les caméras démantelé lundi matin, lundi soir, il était reconstitué à 100 mètres.
Mais alors, qu'est-ce que vous feriez? Que vous feriez? Parce que vous le savez, les
mafias. Madame Salamé, il faut d'abord maîtriser les frontières, parce qu'en matière de trafic de stupéfiants, encore une fois, les stupéfiants, ils arrivent. Il faut donc maîtriser nos frontières. Deuxièmement, il faut maîtriser notre politique migratoire, parce que évidemment, les trafics de stupéfiants utilisent notamment les clandestins pour être des acteurs de ce trafic. Je vous rappelle quand même une conférence de presse du 16 janvier de la préfète sur Marseille expliquant que 67% de la délinquance sur la voie publique sont des étrangers. Il faut donc mettre en place ce que nous réclamons depuis longtemps. Lorsque un étranger est en situation irrégulière, il doit, quelle que soit la situation, rentrer chez lui, et lorsqu'il commet un délit, il doit ne pas pouvoir rester sur le territoire. Déjà là, on va réduire déjà le nombre de nos problèmes.
Mais vous le savez, les chefs de gang, les chefs de ces gangs, les gangs marseillais, ils ont des liens avec des structures étrangères, et les chefs de gang, ils vivent tranquillement à l'étranger, ils ne sont pas inquiétés. Est-ce que vous pensez, Marine Le Pen, qu'il faut une coopération européenne?
Mais pourquoi pas?
Mais pourquoi pas? Donc parfois l'Europe a du bon,
non,
quoi,
mais
sur ça.
Arrêtez de me dire l'Europe a du
bon.
Non,
mais ce que je veux dire, c'est que pourquoi pas?
La question, c'est est-ce qu'il faut une coopération internationale? Oui. Est-ce que cette coopération internationale peut se faire entre les pays européens? Évidemment. Et donc, moi, je ne suis pas du tout contre des coopérations entre les pays d'Europe. C'est même pour ça que je me bats aux élections européennes. Donc, oui, bien sûr, il faut cela, mais il faut aussi une politique pénale, il faut aussi une politique carcérale qui tienne compte du fait que, comme en Italie, et comme aux États-Unis d'ailleurs, les trafiquants de drogue sont mis entre guillemets, dans des quartiers de sécurisés pour leur éviter de pouvoir continuer à opérer de leur prison. Et c'est actuellement ce qui se passe. Encore une fois, nous sommes vraiment dans une situation que je considère comme très inquiétante sur ce sujet, parce que ça ne touche pas seulement les grandes villes, ça touche maintenant les campagnes. Et on trouve dans quasiment toutes les campagnes des trafics de drogue qui se multiplient.
Vous parlez de Marseille comme d'une narcoville. Il y a un magistrat marseillais qui a employé ce terme aujourd'hui, qui dit Marseille, c'est une narcoville.
Ce qui est sûr, c'est que Marseille, comme un certain nombre d'autres endroits, est en train de tomber entre les mains, effectivement, des narcotrafiquants. Il est donc plus que temps de s'y attaquer, sachant que, je rappelle, Emmanuel Macron est au pouvoir depuis 7 ans.
Venons-en à l'Ukraine, Marine Le Pen. Quand Emmanuel Macron dit, et je le cite, « Si la Russie venait à gagner, nous n'aurons plus de sécurité et la crédibilité de l'Europe sera réduite à zéro. Nous avons un objectif, la Russie ne peut pas et ne doit pas gagner cette guerre qui est existentielle pour notre Europe et pour la France. » Fin de citation. Êtes-vous d'accord avec ces mots? Pourriez-vous les reprendre?
Mais si j'étais d'accord, c'est si je considérais que les intérêts vitaux de la France étaient en cause dans le conflit aujourd'hui dramatique, d'ailleurs meurtrier, que la Russie mène à l'Ukraine, je serais pour la guerre. Voilà. Mais je considère que les intérêts vitaux de la France ne sont pas en cause. Et c'est bien toute, d'ailleurs, la divergence que nous avons avec Emmanuel Macron. Donc, je l'ai dit à la tribune de l'Assemblée nationale, il est évident que si la Russie perdait la guerre, ça ne serait que justice. Mais le problème, c'est qu'il faut faire avec le réel. Là encore, je répète mes propos, depuis le début de la guerre, l'Ukraine peut-elle gagner la guerre sans l'OTAN? La réponse est non. Faut-il que l'OTAN entre en guerre? Ma réponse est non. Et donc, lorsqu'on a fait ce bilan-là, on se dit que le seul moyen d'aider l'Ukraine, c'est potentiellement de lui livrer les moyens d'arriver à une négociation en position de force. Or, ça n'est pas ce que veut le gouvernement français. Ça n'est pas son objectif. Et c'est pour ça que je conteste la manière dont il agit, parce que je crois qu'il faut qu'elle puisse arriver en position de force pour opérer la négociation qui finira par arriver.
Et quand? C'est-à-dire que vous souhaitez la négociation au plus vite? Vous souhaitez ouvrir des négociations de paix avec Vladimir Poutine, qu'il les ouvre au plus vite?
Je vous rappelle,
si vous étiez au pouvoir aujourd'hui, vous diriez quoi? On arrête de livrer des armes, maintenant il faut ouvrir des négociations, vous diriez ça à Zelensky?
C'est exactement l'inverse que je viens de dire. Je viens de dire, moi je ne conçois qu'on livre des armes, y compris défensives à l'Ukraine, que pour lui permettre d'entrer en négociation en situation de force. On ne l'a pas fait. Bon, la situation aujourd'hui est extrêmement dégradée. Je vous rappelle que au bout de quelques mois de guerre, le président Zelensky était d'accord pour engager cette négociation. En fait, j'ai l'impression qu'il en a été presque empêché. Bon, par un certain nombre de puissances qui avaient peut-être, encore une fois, d'autres avis sur cet événement. Mais aujourd'hui, il y a des négociations qui sont en cours, on le sait. Le problème, c'est qu'ils ne passent pas par la France. Et ils ne passent pas par l'Europe. Ils passent par la Turquie, ils passent par la Chine. Nous sommes écartés totalement d'un conflit qui pourtant est à notre porte dans lequel il était absolument naturel que nous puissions servir d'arbitre ou de négociateur.
Mais donc vous n'estimez pas que la Russie soit dans une stratégie offensive non seulement à l'égard des Ukrainiens, mais plus généralement à l'égard de nous tous, les Européens?
Mais moi, je ne sonde pas les cœurs et les reins de Vladimir Poutine. J'essaye de regarder les choses avec pragmatisme. La Russie n'a pas les moyens militaires de pouvoir s'engager dans une forme de guerre, de territoire avec l'ensemble de l'Europe. Voilà, c'est ce que je pense. Maintenant, s'il s'avérait que Vladimir Poutine fasse la démonstration qu'il entendait élargir en quelque sorte le territoire, il est évident que je réviserais cette position.
Vous avez une nuance avec Jordan Bardella qui a dit il y a quelques jours, cela fait 2 ans que la Russie joue l'escalade. Oui, la Russie est dans une stratégie offensive à l'égard de l'Europe, à l'égard des pays européens, pas seulement de l'Ukraine.
Oui, mais c'est quoi une stratégie offensive? C'est une stratégie
de déstabilisation des pays européens.
Qui consiste à ne pas reculer en réalité, c'est-à-dire que la Russie ne recule pas. Voilà. Et on voit bien que chacun participe à l'escalade. Bon, permettez-moi de vous dire que Emmanuel Macron n'est pas le dernier à participer à l'escalade. Ce que je Ce que je n'admet pas dans le comportement du président de la République, Emmanuel Macron, c'est qu'en réalité, il fait de la politique avec la guerre. Voilà, il fait de la politique avec la guerre. Et pour cela, il évoque l'envoi de troupes au sol, qui est ou la dissuasion d'ailleurs nucléaire. Je n'ai pas eu de réponse, moi, lorsque j'ai posé la question. Quid de la promesse d'entrer l'Ukraine dans l'OTAN? Quid de la promesse d'entrer l'Ukraine dans l'Union européenne? Quid de ce terme de dissuasion active qui est utilisé dans l'accord militaire et qui évoque évidemment la dissuasion nucléaire? Aucune réponse à ces questions-là. On est dans une séquence de communication électoraliste. On ne fait pas de com' avec la guerre. Voilà. On n'en fait pas. On ne parle pas de la guerre avec un whisky à la main à 3h du matin avec un chanteur en disant avec un air dégagé nous dit-on je vais être obligé d'envoyer des mecs sick, d'accord, à Odessa. On ne fait pas cela, parce que la guerre, c'est quelque chose de terrible, c'est quelque chose de sérieux, que c'est, et le peuple ukrainien est en train, évidemment, de le vivre dans sa chair.
Vous déniez le fait qu'Emmanuel Macron ait des convictions sur le sujet, pense que la situation est grave et pense que ce qu'il dit aujourd'hui, c'est parce que la situation s'aggrave chaque jour un peu plus en Ukraine.
Mais bien sûr que je le conteste. Parce que si ça n'avait pas été le cas, alors il n'aurait pas mis dans l'accord militaire des choses qui n'auraient pas dû y être, comme l'entrée dans l'UE, comme l'entrée dans l'OTAN, ce qui aurait permis peut-être à l'ensemble de l'opposition de voter unanimement ce rapport. Donc en réalité, vous l'avez dit vous-même au début de votre question, le piège russe, il cherche à tendre un piège à ses adversaires selon un principe qui consiste à dire si vous êtes soit pro-Macron et si vous n'êtes pas pro-Macron, alors vous serez accusé d'être pro-Poutine. C'est véritablement scandaleux de jouer avec des choses aussi sérieuses que la paix ou la guerre.
Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon a défendu dimanche l'importance d'un chemin vers la paix. Au fond, vous avez la même position que lui sur l'Ukraine, non? Vous l'assumez?
Ça veut dire qu'on veut, on veut pas la guerre, quoi.
Non, voilà. Je vous pose la question.
Non, mais voilà. Est-ce qu'on a le droit, moi c'est la vraie question que je pose, est-ce qu'on a le droit de considérer que on ne souhaite pas entrer en guerre contre la Russie, peut-être parce que d'ailleurs nous n'en avons pas totalement les moyens et que comme je vous l'ai dit tout à l'heure,
Mélenchon, il dit on n'aurait pas les moyens aujourd'hui de rentrer en guerre.
Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, en réalité la seule véritable solution qui ne transforme pas ce conflit en conflit mondial, c'est d'arriver à trouver les moyens de négocier dans des conditions les plus avantageuses pour l'Ukraine. Voilà.
Dernière question sur l'Ukraine, parce qu'on a encore beaucoup de questions à vous poser. Votre allié italien Matteo Salvini a salué la victoire de Vladimir Poutine dimanche à l'élection présidentielle. Est-ce que réélu, on le rappelle, avec 87% des voix, vous saluez sa victoire?
Il n'a pas salué la victoire de Vladimir Poutine.
Il a dit, les peuples ont parlé, il faut respecter cette victoire. Non, et d'ailleurs, il s'est fait tenter par le ministre italien des Affaires étrangères.
Non. Ben, c'est normal, il n'est pas ministre des Affaires étrangères. Bon. Mais ça n'est pas ce qu'il a dit. Il a dit, en gros, ce que disent souvent les démocrates, d'ailleurs, le peuple a toujours raison, et moi, en général, je rajoute, même quand il a tort, vous voyez, bon. Et il a pris acte, voilà, comme Luca d'Orsay a pris acte de l'élection de Vladimir Poutine. Il faut faire avec, si vous voulez, voilà. Nous faisons d'ailleurs avec toute une série de pays qui, eux, n'ont pas du tout d'élection, et on fait avec la réalité, le monde tel qu'il est, pas le monde tel que l'on aimerait qu'il soit.
Oui, un mot sur la guerre entre Israël et le Hamas. La bande de Gaza est désormais le plus grand cimetière à ciel ouvert après avoir été la plus grande prison à ciel ouvert, a dénoncé lundi le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell. Un habitant sur deux à Gaza, soit plus 1 million de personnes, connaît une situation alimentaire catastrophique, ont prévenu lundi les agences de l'ONU. Bilan humain, plus de 25 000 morts selon le Pentagone. Appelez-vous Marine Le Pen à un cessez-le-feu immédiat ou estimez-vous que Benjamin Netanyahou peut continuer cette guerre?
D'abord, permettez-moi d'avoir une pensée pour les 3 Français qui sont encore otages et les 130 otages israéliens qui sont encore détenus par le Hamas. Je ne veux pas reprendre à mon compte ce terme de cessez-le-feu parce que je considère que c'est un terme qui doit s'appliquer entre deux armées régulières. Le Hamas n'est pas une armée régulière, le Hamas est un groupement terroriste. Voilà. Et il doit déposer les armes et il doit restituer les otages. Et après, avoir avoir fait cela, eh bien, il faut évidemment que le bruit des armes cesse, y compris des armes israéliennes.
Donc vous soutenez toujours la politique de Benjamin Netanyahou, qui dit que tant qu'on n'aura pas vaincu le Hamas, on continue.
Je suis pas sûr qu'il soit tout seul à penser ça, en réalité, parce que je pense que le Hamas. J'ai vu là que le 15 mars, le Fatah a fait un communiqué en disant le Hamas a causé le retour de l'occupation israélienne avec le 7 octobre, amenant une situation encore plus horrible et cruelle que celle de 1948. Voilà ce que dit le Fatah. Et donc, aujourd'hui, chacun est conscient que c'est le Hamas qui, d'ailleurs, en utilisant, il faut bien dire, la population civile comme bouclier humain, est à l'origine, et évidemment en ayant commis cette atrocité du 7 octobre, est à l'origine des combats qui sont aujourd'hui en cours. L'avenir, encore une fois, des deux États que j'appelle de mes voeux, ne peut pas se faire avec le Hamas.
Marine Le Pen, revenons en France et à l'économie. Gabriel Attal dit vouloir aller encore plus loin sur l'assurance chômage en réduisant à la fois la durée et le montant d'indemnisation. Il dit « j'ai pas de tabou », il dit « qu'il faut aller plus loin ». Il n'exclut pas de passer de 18 à 12 mois d'indemnisation pour les chômeurs. Les syndicats sont contre, et vous ?
Oui, bien sûr, je suis contre. Bien entendu, je suis contre. Je trouve honteux que l'incompétence de ce gouvernement dans le domaine financier, où pourtant ils avaient une réputation, on leur avait fait une réputation de Mozart, ils étaient des gens extraordinaires, ils allaient nous sauver. Non mais jamais on a eu des chiffres aussi épouvantables, il faut quand même le dire. Je veux dire, la dette a augmenté de 58% en 7 ans. Ils ont créé 900 milliards d'euros. Non, attendez, on va en parler. Ils ont créé 900 milliards d'euros de dette, c'est-à-dire autant que la dette globale de notre pays en 2000. Et après, ils donnent des leçons de compétences.
Le Pen, il y a eu 3 ans de pandémie, vous le savez. Ils ont fait le chômage partiel pour tenir.
Enfin, je veux dire, non. Dites-moi, nos voisins aussi. Et ils n'ont pas eu une augmentation de leur dette comme ça, nos voisins européens. Donc, stop un petit peu avec les excuses. C'est jamais de sa faute, d'ailleurs, monsieur le maire. C'est toujours de la faute des autres. Maintenant, c'est de la faute du système de protection sociale. Vous me direz, j'ai de la chance. En général, c'est la faute du RN. Bon, on l'a échappé belle cette fois-ci. Mais je suis désolé. La faute du Covid, la faute de l'Ukraine, alors que l'on sait très bien que l'augmentation, par exemple, des prix de l'énergie a démarré bien avant la guerre en Ukraine et que le premier bouclier énergétique qu'ils ont mis en œuvre était avant la guerre en Ukraine. Donc, arrête.
Il faut pas bien de faire le bouclier énergétique pour aider les gens à payer la facture.
Ah mais quoi ? Ah mais c'est super. On paye donc.
C'est pour ça que ça grève aussi les finances publiques.
Non. Je vais vous dire ce que j'en pense. Non, il fallait pas faire le bouclier énergétique. Il fallait sortir du système de tarification européen. Et parce que pour des raisons idéologiques et dogmatiques, ils ont refusé de sortir du système de tarification européen. Alors ils ont fait 60 milliards de boucliers énergétiques. Aujourd'hui payé par les Français, puisque évidemment ça va entraîner l'effondrement du système de protection sociale, l'augmentation des impôts et j'en passe. Voilà. Donc je suis navré de vous dire que ce sont des champions du monde de la dette, champions du monde des déficits, champions du monde des défaillances d'entreprises. On vient d'ailleurs
2 millions d'emplois créés, Marine Le Pen. Un taux de chômage à 7,5, c'était jamais vu depuis 20 ans. Vous connaissez les chiffres.
Enfin, 2 millions d'emplois créés. Très bien les chiffres aussi des alternants qu'on met dans les actifs, des apprentis qu'on met dans les actifs, des gens qu'on a rayés. Moi, ce que je vois, ce sont les chiffres de la NPE. Voilà. Les chiffres de la NPE, c'est 5 600 000 personnes qui sont inscrites à la NPE. C'est-à-dire qu'ils cherchent un emploi, en réalité, à temps complet, et qu'ils n'arrivent pas à en trouver, parce qu'on a ubérisé l'économie. Leurs résultats sont pitoyables. Est-ce qu'on va enfin se le dire et l'admettre? Et ils n'ont plus le droit de donner des leçons de compétences dans ce domaine
Thomas
Cazenave, à quiconque.
Le ministre du Budget dit que votre programme, c'est 100 milliards d'euros de déficit en plus chaque année, et le risque de la faillite du pays, ça c'était dans les Échos. Vous lui répondez quoi?
D'abord, je lui réponds que cette évaluation de 100 milliards est totalement fausse. On s'en est d'ailleurs expliqué. Mais comment Monsieur Cazenave ose dire ça, alors que lui-même a fait voter un budget en déficit de 160 milliards. Non mais comment il ose ? Je veux dire, c'est même pas la paille et la poutre, là, si vous voulez, c'est la paille et le pont, vous voyez ? Bon, donc stop maintenant. Il y a un moment où ces gens doivent admettre qu'ils ne peuvent plus donner aucune leçon, ni de sérieux budgétaire, ni d'économie à quiconque sur la planète.
Une question au Standard d'Inter. C'est Hélène qui nous appelle de la ville de Lyon. Question de géopolitique, je crois. Bonjour Hélène, bienvenue.
Oui, bonjour.
Bonjour.
J'aimerais savoir que Marine Le Pen éclaircisse sa position quant à l'Europe. Elle vient de dire que certaines fois, il faut sortir du consensus européen. Or, je pense que l'Europe doit être absolument unie. Que pensez-vous que peut faire la France sans une Europe unie, face à la Chine, face à la Russie ou face aux Américains ?
Merci Hélène pour cette question. Marine Le Pen vous répond.
Mais ça dépend, unie sur quel sujet, si vous voulez. Encore une fois, la tarification de l'électricité, non, je considère qu'on n'a pas à se soumettre à la tarification européenne. Pourquoi ? Parce qu'elle a été faite au bénéfice de pays comme l'Allemagne. Or, je suis navrée, mais aujourd'hui, la Cour des comptes vient de faire un rapport en disant que si les Français avaient payé le prix de l'électricité à son prix de production nationale, eh bien, nous aurions économisé 47 milliards, sérieusement. Et pourquoi est-ce qu'on s'appauvrirait pour le plaisir ? En revanche, il y a des domaines dans lesquels, bien sûr, il faut qu'il y ait des coopérations européennes entre les différents pays. Par exemple, la protection civile, la recherche, les échanges d'étudiants, de chercheurs, tous ces sujets-là peuvent faire l'objet d'une coopération.
Les 27 ont adopté un accord de principe pour maintenir...
On parle de 47%.
Les 27 ont adopté un accord de principe pour maintenir la suspension des droits de douane et des quotas sur les produits ukrainiens, volailles, œufs, blé, avoine, miel, à la condition de ne pas dépasser des plafonds d'importation. C'est une concession faite aux agriculteurs européens, concession suffisante.
Non, c'est pas une concession, c'est une escroquerie. Parce que la réalité, c'est qu'ils ont mis ces seuils en se basant sur les années où les importations n'ont jamais été aussi énormes. Voilà. Donc si on continue le niveau d'importation qu'on a vécu les deux dernières années, puisque c'est ça en réalité le fond du texte, eh bien nos agriculteurs vont mourir et des filières entières vont s'effondrer. Donc ça s'appelle une escroquerie.
Deux questions pour terminer. Le gouvernement a transmis lundi au Conseil d'État son projet de loi sur la fin de vie. Marine Le Pen qui ouvre la possibilité de demander une aide à mourir sous certaines conditions strictes. Est-ce qu'il y aura une consigne de vote sur ce projet de loi ou chacun vote selon sa conscience au Rassemblement National ?
Non mais dans les domaines, encore une fois, sociétaux, je l'ai toujours dit, je pense que ce sont des sujets qui touchent à la sensibilité de chacun, à l'histoire personnelle de chacun et il n'y a pas de consigne de vote. Mais j'espère bien convaincre les députés du Rassemblement National que la voie qui est choisie par le gouvernement est une voie en même temps facile parce qu'elle fait fi en fait des carences dans le domaine des soins palliatifs où nous sommes très en retard en France.
Il y a toute une partie sur les soins palliatifs.
Et en même temps, oui. Alors commençons par ça. Non mais commençons par les soins palliatifs, car en réalité, qu'est-ce qui pousse les gens à être pour l'euthanasie ? C'est la douleur de leurs proches, c'est voir leurs proches souffrir, c'est insupportable et je le comprends. Mais la solution à ça, c'est de lutter contre la douleur, c'est pas de lutter contre la vie.
Aya Nakamura qui chanterait Piaf en ouverture des JO, c'est un beau symbole pour vous ?
Non, pas du tout, c'est pas un beau symbole. Honnêtement, c'est une provocation supplémentaire d'Emmanuel
Pourquoi ?
Macron
Pourquoi ?
Qui doit tous les matins se lever en disant « Tiens, comment est-ce que je vais réussir à humilier le peuple français ?
Et pourquoi ?
Comment je vais réussir à les indigner ce matin ?» Voilà.
Pourquoi
et,
ça humilierait ?
Et aujourd'hui, il est prolixe, il arrive à en trouver une par jour d'idées pour humilier
Pourquoi ?
Et indigner
Pourquoi
les Français.
Pourquoi Aya Nakamura, qui est la chanteuse la plus écoutée dans le monde, la chanteuse française, la plus écoutée dans le monde, qui chanterait du Piaf, ça humilierait le peuple français.
Mais parce que Aya Nakamura est honnêtement, bon, je ne vais même pas vous parler de l'entourage. Je vais vous parler de sa tenue, de sa vulgarité, du fait qu'elle ne chante pas français. Elle ne chante d'ailleurs pas étranger non plus. Elle chante on ne sait pas quoi.
C'est du métissage.
Non, ce n'est pas du métissage. C'est du n'importe quoi. Enfin, pardon, regardez, lisez les paroles de ses chansons. Ce n'est pas du métissage. Non, ce n'est pas vrai. Voilà, alors que ça plaise à des gens très bien, que ça représente la France, non, je suis désolée. Moi, ça me déplaît. Bon, voilà.
Elle se fait siffler lors des meetings d'Éric Zemmour. Un groupe identitaire, Les Natifs, a diffusé sur les réseaux sociaux la photo d'une banderole sur laquelle on pouvait lire « Il n'y a pas moyen, Aya, ici c'est Paris, pas le marché de Bamako ».
Mais ça, c'est honteux.
C'est du racisme, ça ?
Ça, c'est du racisme.
Non, mais ça, c'est honteux. La question n'est pas, encore une fois, de remettre en cause sa nationalité, etc. La question et quelle est l'image que l'on veut donner de notre pays. Bon, elle n'est pas quand même la seule artiste à vendre énormément dans le monde.
Vous aimeriez entendre qui ?
Mais c'est pas le sujet, si vous voulez. Le sujet, c'est quelque chose qui doit rassembler, qui doit unir les Français. Alors, c'est difficile d'unir 100%, mais là, on voit bien que la volonté d'Emmanuel Macron, ça a été une fois de plus de diviser. C'est ce qu'il sait faire de mieux.
Marine Le Pen, merci
beaucoup
d'avoir été
merci
à ce micro ce matin.